VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec au micro. Dans quelques instants, celle plus avec Claire Morin-Gibourg. Mais d'abord, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité. Nouvelle journée d'affrontements mortels au Burundi ce mercredi. La pression de la rue ne faiblit pas, tout comme l'intransigeance du pouvoir. L'opposition demande le report des élections, nous dit Nicolas Pineau.
Ce mercredi, environ 200 manifestants ont marché dans la ville de Matana, dans la province de Bururi. La police est intervenue et a tiré. Trois manifestants ont été blessés. L'un d'eux est mort peu après en raison de coups reçus à la tête. Plusieurs personnes ont également été arrêtées par la police lors de cette manifestation. Dans les rues de Bujumbura, la police déployée en masse est parvenue pour la première fois à empêcher quasiment toute manifestation. Dans les quartiers de Musaga, Nyakabiga, Kanyosha et ailleurs, les policiers ont pris position avant l'aube pour prévenir tout rassemblement. Intervenant immédiatement à coups de gaz lacrymogène et tirs de sommation pour disperser tout groupe suspect. À une semaine des élections législatives et municipales au Burundi, l'opposition juge impossible la tenue de ces scrutins en raison du désordre et de l'insécurité dans le pays, appelant la communauté internationale à ne pas cautionner ce hold-up électoral annoncé selon elle. Les législatives et les municipales avaient déjà été reportées de 10 jours sous la pression internationale. Suivront en principe une présidentielle le 26 juin et des sénatoriales le 17 juillet. Les dirigeants des pays de la communauté d'Afrique de l'Est se réuniront dimanche en Tanzanie à Dar es Salaam pour tenter de trouver une position commune sur cette crise burundaise.
Et pendant ce temps, au Rwanda, environ 2 millions de personnes demandent une réforme constitutionnelle pour permettre au président Paul Kagame de se représenter en 2017. Leur pétition sera examinée pendant l'été par le Parlement, indiquent les autorités citées par l'AFP. Monsieur Kagame est au pouvoir depuis que sa rébellion du Front patriotique rwandais a mis fin au génocide de 1994. En République centrafricaine aussi, on prépare des élections. Le vote récemment reporté doit impérativement se tenir cette année, estime le ministère français des Affaires étrangères, alors que la présidente de transition, Catherine Samba-Panza, est en visite à Paris. Citée par l'AFP, elle aussi a affirmé sa volonté de ne pas indéfiniment aller de report en report et d'organiser d'ici la fin 2015 ces élections présidentielles et législatives, initialement prévues en août. Législative éthiopienne, des résultats partiels ont été publiés par la commission électorale. Sans surprise, la coalition au pouvoir a remporté une écrasante victoire aux élections de dimanche. Le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens s'est déjà emparé de 442 sièges sur un total de 547. Le premier ministre éthiopien, Haïle Mariam Desalegn, qui avait succédé à Meles Zenawi à sa mort en 2012, devrait donc être reconduit. Et à Madagascar, les députés ont voté hier la destitution du président Héry Rajaonarimampiane. Ce dernier conteste le vote et le dernier mot reviendra à la haute cour malgache. Le point avec Idriss Fall.
Héry Rajaonarimampiane, 56 ans, se présentait en homme neuf lorsqu'il est arrivé au pouvoir après les élections de décembre 2013. Il avait mis 2 mois et demi pour trouver un premier ministre, limogé au bout de 8 mois. Son propre parti est resté un groupuscule ne disposant d'aucun député à l'Assemblée nationale. Ses détracteurs lui reprochent ses tâtonnements et son inefficacité. 121 députés ont voté hier sa destitution, l'accusant d'incompétence et d'avoir violé à plusieurs reprises la Constitution. Le président malgache conteste la régularité du vote, assurant qu'il était toujours là et que le pays a besoin de stabilité après toutes ces années de crise. Les regards sont maintenant tournés vers la haute cour constitutionnelle qui doit se prononcer sur la pertinence de la destitution votée par des députés, mais aussi sur le respect de la procédure.
Mobilisation ce mercredi matin des organisations des médias à Ouagadougou, au Burkina Faso. Elles ont tenu un sit-in devant le CSC, le Conseil supérieur de la communication, pour exiger la levée immédiate de la suspension des émissions interactives sur les médias audiovisuels. Sans avoir eu gain de cause, elles ont décidé de la reprise de ces émissions dès demain. Abdoulaye Diallo est le gestionnaire du centre de presse Norbert Zongo.
On a décidé ce matin de faire un sit-in pour se faire entendre, pour demander la levée de la mesure, la levée immédiate sans condition de la mesure. Les organisations représentant des médias viennent de se réunir, mais déjà je peux vous dire que la décision c'est de dire que compte tenu du fait que la présidente du CSA a été désavouée par plus de la majorité des conseillers, on fait une lettre pour désavouer l'attitude de la présidente et demander la levée immédiate comme nous de la mesure. Compte tenu du fait que c'est une mesure illégale, attentatoire à la liberté d'expression et de la presse, mais et compte tenu aussi de l'entêtement et de la non-collaboration, ben les organisations, les promoteurs ont décidé simplement ben de faire comme la présidente du CSC, donc de continuer de reprendre les émissions. On ne peut pas continuer à respecter une mesure illégale. Et quand on le fait savoir et qu'on n'est pas entendu, et qu'on tente de nous rouler dans les farines, on tente de nous opposer, de nous diviser, et de nous faire dire ce qu'on n'a pas dit, mais finalement on finit, mais voilà, la décision, voilà, on va faire comme la présidente du CSC.
Abdoulaye Diallo du centre de presse Norbert Zongo était joint à Ouagadougou par Bagessi Koura.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Dans le reste du monde, au Yémen, au moins 36 combattants rebelles ont trouvé la mort à Sanaa, la capitale, lors de raids aériens de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite. Dans cette campagne militaire qui se poursuit contre les insurgés chiites, ayant pris le contrôle de larges portions du territoire yéménite, de nombreux civils et combattants ont également été tués ou blessés le long de la frontière entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, indique l'agence de nouvelles Reuters. L'offensive lancée fin mars a déjà fait plusieurs milliers de morts et réduit l'accès à la nourriture, aux médicaments et carburant pour la population civile. Par ailleurs, le gouvernement saoudien a annoncé aujourd'hui des sanctions contre deux dirigeants présumés du mouvement chiite libanais Hezbollah, accusant l'un d'eux d'ingérence dans les affaires du Yémen, selon l'AFP. Sachez que le Hezbollah est un allié de l'Iran qui soutient les rebelles chiites du Yémen, tandis que les Saoudiens appuient les sunnites et le président en exil, Abdrabo Mansour Hadi. Les deux impliqués sont un responsable militaire et le chef présumé d'une cellule terroriste du groupe chiite libanais. Les responsables arrêtés au cours de la vaste opération menée ce mercredi contre la FIFA ont corrompu le football mondial. C'est ce qu'a déclaré Loretta Lynch, la ministre américaine de la Justice, lors d'une conférence de presse à New York il y a quelques heures. On fait le point avec Jacques Aristide.
Le gouvernement mondial du football, ébranlé donc ce mercredi par des scandales de corruption. 9 élus de la FIFA et 5 partenaires de l'instance ont été inculpés de corruption, racket et blanchiment à New York, accusés d'avoir reçu ou distribué plus de 150 millions de dollars depuis 1991 pour les droits de diffusion de tournois internationaux. Pour la procureure générale des États-Unis, ils ont corrompu les affaires du football pour servir leurs intérêts et pour s'enrichir personnellement. Loretta Lynch a d'ajouter que même l'attribution de la Coupe du Monde 2010 à l'Afrique du Sud, le tout premier pays africain à avoir accueilli l'événement, était corrompue. Les inculpés risquent jusqu'à 20 ans de prison. 7 d'entre eux ont été arrêtés à Zurich, ville où siège la FIFA et où doit être organisée ce vendredi l'élection du président de la FIFA. L'actuel patron, Sepp Blatter, devrait être élu pour un 5e mandat.
Il faut accentuer la pression et augmenter les sanctions contre la Corée du Nord, tandis que se poursuivent les efforts diplomatiques relatifs au programme nucléaire nord-coréen. Ainsi ont convenu des négociateurs de haut rang des États-Unis et de la Corée du Sud, ainsi que du Japon, lors d'une rencontre à Séoul. Pour le représentant spécial américain, Sung Kim, les intentions de Pyongyang quant au nucléaire sont évidentes. Nous devons être préoccupés, quel que soit le degré de leur leur développement, a-t-il ajouté. Et la Russie se sert-elle de fours crématoires mobiles en Ukraine? En tout cas, c'est l'accusation lancée aujourd'hui par deux législateurs américains qui ont pris part à une mission d'information en Ukraine en mars dernier. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité. Au micro, c'était Morgane Guiriec et je cède la place à Claire Morin-Gibourg qui vous propose Celle Plus.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.